Donne Jean-Roger Bion.
Bonsoir à tous. Dans moins de 10 minutes, le magazine de l'économie, mais tout d'abord l'actualité. Manifestation anti-Boko Haram, c'est au Niger. Des milliers de personnes ont protesté dans l'ensemble du pays contre l'organisation terroriste nigériane qui multiplie les attaques dans le sud-est du pays. Le Niger sera le tombeau de Boko Haram, a promis le président nigérien Muhammadu Issoufou à Niamey devant les manifestants. En dépit des opérations de la coalition régionale mise en place pour combattre Boko Haram, la région du lac Tchad frontalière du Nigeria a été la cible de plusieurs raids des djihadistes depuis le début du mois. Et Boko Haram a encore frappé dans le nord-est du Nigeria. 11 personnes ont été tuées cet après-midi dans une nouvelle attaque suicide près de Biou. C'est ce que rapporte l'AFP qui cite des témoins. Selon un membre d'une milice locale d'autodéfense, l'attentat a été commis par 3 hommes à bord d'un tricycle dans le village de Yamakormi, dans l'état de Borno. Ils se sont fait exploser et ont tué 11 personnes, dont un civil, membre d'une milice d'autodéfense et des enfants vendeurs de rue, a dit ce témoin, dont le récit a été confirmé par un habitant du village. Par ailleurs, des centaines d'hommes du groupe islamiste ont attaqué aussi la ville d'Askira Ouba. Des accrochages ont aussi eu lieu au Cameroun, qui affirme qu'un millier de membres présumés de la secte ont été arrêtés. Jacques Aristide.
Il s'agirait de plus de 1000 combattants et personnes liées à Boko Haram, d'après l'AFP, qui cite le colonel Joseph Nouma, commandant de l'opération Alpha, luttant contre le groupe terroriste. Il a précisé que ces individus étaient détenus à la prison de Maroua, chef-lieu de la région de l'extrême nord du Cameroun, avant qu'ils ne soient remis à la justice. Toujours dans cette partie du Cameroun, 5 soldats du pays ont perdu la vie lundi dans une série d'accrochages avec Boko Haram, l'armée camerounaise indiquant que 86 combattants du groupe islamiste ont aussi été tués. Nouvelle violence également au Nigeria, des combattants de Boko Haram ont incendié lundi des habitations et des bâtiments publics à Askira Ouba, dans le nord-est du pays. Des milliers d'habitants ont dû fuir à cette ville de l'état de Borno, laissant derrière eux les malades et les personnes âgées, selon un témoin qui ajoute ignorer le sort de ceux qui sont restés à Askira Ouba à la merci de Boko Haram.
Et nous restons au Nigeria. L'ancien président Olusegun Obasanjo a quitté le parti au pouvoir lundi soir, 6 semaines seulement avant l'élection présidentielle. Claire Morin-Gibou.
En déchirant publiquement sa carte de membre du Parti démocratique populaire, le PDP, Olusegun Obasanjo a réussi son coup d'éclat. L'ancien président, un pilier du parti au pouvoir, avait récemment accusé le président Goodluck Jonathan d'être prêt à frauder pour remporter la présidentielle du 28 mars prochain. Monsieur Obasanjo fut le premier président démocratiquement élu à la fin des dictatures militaires en 1999 et il jouit toujours d'une large popularité. Son soutien à Goodluck Jonathan lors de son élection en 2011 avait été déterminant, mais les relations entre les deux hommes ont viré à l'aigre depuis. Monsieur Obasanjo a récemment déclaré que Muhammadu Buhari, le principal rival de Monsieur Jonathan pour l'élection présidentielle, saurait mieux comment combattre le groupe islamiste armé Boko Haram et faire reculer la corruption endémique dans le pays.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En Côte d'Ivoire, l'ancienne première dame Simone Gbagbo, détenue depuis près de 4 ans, sera entendue lundi prochain par la cour d'assises. L'information a été confirmée à l'AFP par son avocate, Maître Abiba Touré. Elle a aussi annoncé que Michel Gbagbo, le fils de Laurent Gbagbo, passe demain au tribunal d'Abidjan Plateau. Surnommée la dame de fer, Simone Gbagbo, âgée de 65 ans, est jugée depuis le 26 décembre devant les assises d'Abidjan aux côtés de 82 co-accusés pour atteinte à la sûreté de l'État. Madame Gbagbo est également réclamée par la CPI, qui l'accuse de crimes contre l'humanité commis durant la crise post-électorale, à l'instar de son mari, Laurent, emprisonné depuis plus de 3 ans à La Haye et qui sera jugé, lui, en juillet. 5e et dernière réunion de suivi des donateurs pour le développement du Mali. Les travaux ont débuté ce mardi 17 février à Bamako. Elle met face à face les autorités maliennes et le comité de suivi des donateurs qui avait pris l'engagement en mai 2013 à Bruxelles de venir en aide au Mali avec 3,3 milliards d'euros dans sa politique de reconstruction. La rencontre de Bamako doit faire le point des différents décaissements. Kassim Traoré.
En mai 2013, la communauté internationale s'était engagée à aider le Mali. Plus de 3,3 milliards d'euros avaient été promis. Annick Girardin, secrétaire d'État français chargé du développement et de la francophonie.
La France, pour sa part, avait promis à Bruxelles un appui sur 2 ans. Elle a tenu ses engagements et elle a même dépassé. Fin 2014, c'est un total de 310 millions d'euros que la France aura engagé en faveur du Mali.
Les pourparlers d'Alger ont été abordés au cours de cette rencontre. Amadou Konaté, ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord.
Si voudrais-je réitérer ici l'engagement du gouvernement du Mali à poursuivre ces négociations dans un esprit constructif, inclusif, afin d'aboutir le plus rapidement possible à la signature d'un accord de paix.
Le premier ministre malien a salué la solidarité de la communauté internationale, Modibo Keïta.
Le gouvernement du Mali, malgré toutes les difficultés, n'a jamais perdu de vue la nécessité de mériter la confiance de ses partenaires et de s'engager à mettre en œuvre tous les engagements auxquels il a souscrit. Je le réitère ici, nous ferons tout pour mériter de votre confiance.
Cette 5e réunion de suivi est la dernière. Elle doit permettre aux pays donateurs qui ont promis de faire le point de leurs différents décaissements en faveur du Mali. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Nouveau combat dans une zone pétrolière au Soudan du Sud. Les belligérants sud-soudanais se sont affrontés aujourd'hui dans le stratégique état du Haut-Nil riche en pétrole. C'est ce qu'a annoncé le ministre sud-soudanais de la Défense qui accuse le camp rebelle de vouloir prendre la capitale d'un autre état clé. En Égypte, l'ex-président islamiste Mohamed Morsi, destitué en 2013 par l'armée, sera jugé le 23 février dans un 5e procès devant un tribunal militaire, cette fois pour incitation au meurtre en marge de manifestations, ont indiqué des sources judiciaires. Le premier chef de l'État élu démocratiquement en Égypte encourt déjà la peine de mort dans 4 autres procès.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En Ukraine, les rebelles pro-russes sont entrés ce mardi dans la ville stratégique de Debaltsev, dans l'est du pays. Des combats acharnés ont éclaté dans les rues. Une dégradation de la situation survenue malgré la nouvelle trêve et un round de négociations téléphoniques au plus haut niveau. Félicie Passis-Zembrou.
Les combats qui faisaient rage depuis des semaines autour de cette ville quasiment encerclée se sont déplacés à l'intérieur de la ville et se déroulent en face à face selon l'AFP qui cite des sources policières régionales. L'entrée des rebelles à Debaltsev, nœud ferroviaire situé entre Lugansk et Donetsk, les deux capitales des républiques séparatistes de l'est de l'Ukraine, a été confirmée par un porte-parole militaire ukrainien qui a néanmoins minimisé son ampleur. Kiev, qui a annoncé mardi avoir perdu 5 soldats en 24 heures, soit 10 au total depuis le début de la nouvelle trêve instaurée ce week-end, affirme respecter pleinement le cessez-le-feu et de ne faire que riposter aux attaques rebelles. Les combats à Debaltsev ont été abordés lors de plusieurs entretiens téléphoniques du président ukrainien Petro Porochenko, qui en a discuté lundi soir avec le président français François Hollande et la chancelière allemande Angela Merkel, mais aussi avec celle-ci et le président russe Vladimir Poutine, avant de discuter avec le secrétaire d'État américain John Kerry.
Tragédie en Haïti, où au moins 18 personnes sont mortes, électrocutées et 15 autres blessées la nuit dernière suite à la chute d'une ligne électrique. Les précisions, Timothée de Nangmaï.
L'accident a eu lieu au carnaval de Port-au-Prince, au passage d'un char qui transportait Barricade Crew, un groupe de rap très populaire. Selon des témoins, quelqu'un à bord du char a utilisé un objet pour soulever le câble électrique haute tension et permettre au véhicule de passer. Le câble s'est rompu, électrocutant des danseurs et des musiciens. Selon la station haïtienne Radio Métropole, Phantom, le chanteur vedette du groupe Barricade Crew, fait partie des personnes directement touchées par le câble et est dans un état critique. Un photographe de l'AFP qui s'est rendu à l'hôpital général de Port-au-Prince affirme avoir vu de nombreux blessés aux urgences. Port-au-Prince a lancé dimanche son carnaval, le plus important de la Caraïbe. La musique et la danse en sont les principales attractions.
Merci Timothée. Un juge fédéral américain a ordonné la suspension temporaire d'un plan de régularisation de millions de clandestins décrété par Barack Obama en novembre. Cette ordonnance du juge a été saluée par les adversaires républicains du président, selon l'AFP. Barack Obama avait annoncé le 20 novembre que son administration accorderait des permis de travail de 3 ans à jusqu'à 5 millions de personnes en situation irrégulière sur les quelques 11 millions que compte le pays. Et de fortes chutes de neige et un froid mordant paralysent une bonne partie de l'Est et du Centre des États-Unis, provoquant la fermeture pour la journée des agences fédérales à Washington dans l'attente d'un nouveau front polaire. Selon les médias américains, 4 personnes sont mortes sur les routes enneigées et verglacées classées dans le Tennessee et au Kansas. C'est la fin de cette édition. Rendez-vous tout de suite avec l'émission Le Magazine de l'économie.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Ici Washington, la Voix de l'Amérique, Camille Grosdidier pour le magazine hebdomadaire de l'économie. Les titres tout d'abord, la microfinance peut beaucoup apporter aux petits entrepreneurs en plus de l'argent dont ils ont besoin pour se lancer dans les affaires.
Les institutions de microfinance, si jamais elles arrivent à identifier un problème et qu'elles mettent vraiment l'accent sur l'amélioration de ce point particulier, eh ben elles peuvent vraiment aider les clients au-delà de l'accès aux services financiers.
Yousra Hamed, auteur d'un nouveau rapport de l'Organisation internationale du travail, nous en dira davantage. Le climat des affaires en Afrique s'est nettement amélioré, même s'il reste beaucoup à faire.
Ce qu'il faut saluer déjà dans l'environnement des affaires économiques plus souvent, c'est cette meilleure compréhension qu'il y a entre l'administration et le secteur privé.
Le directeur exécutif de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, Mortal Akane, reviendra sur les acquis et les défis du secteur privé. Et ici aux États-Unis, le président Barack Obama signe un décret pour renforcer la sécurité sur Internet. La microfinance pour développer des emplois décents, tel est le titre d'un nouveau rapport de l'Organisation internationale du travail qui revient donc sur ce thème en montrant comment un meilleur accès aux microprêts peut aider à améliorer la vie de millions de défavorisés à travers le monde, des gens qui ne demandent qu'à travailler. Je laisse Madame Yousra Hamed, auteure du rapport de l'OIT, vous en dire davantage.
Penché sur plusieurs institutions de microfinance et au fait, notre constat, ça a été plutôt le leur, ça a été de les aider à faire un constat par rapport à la situation du travail décent de leurs clients. C'était vraiment la première étape du projet où ils ont fait des enquêtes pour voir vraiment qu'est-ce qui cloche, entre guillemets, qu'est-ce qui ne se passe pas bien en termes de travail décent de leurs clients. Il faut savoir que c'est vraiment un sujet assez nouveau pour les institutions de microfinance, de se tourner ou d'appréhender le travail du client, les conditions globales du travail du client. Et donc, en fait, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait en effet beaucoup de déficits, disons, de travail décent. Donc, il y avait du travail des enfants, il y avait des accidents de travail qui se passaient enfin, sur le lieu du travail, des conditions assez compliquées, assez difficiles de travail. Il y avait énormément d'informalité, beaucoup d'entreprises qui n'étaient pas enregistrées. Il y avait également de la vulnérabilité, de la sensibilité par rapport au risque, où si jamais il y a un choc qui arrive, les clients de la microfinance retombent dans la pauvreté.
Est-ce que la situation est plus précaire pour les femmes micro-entrepreneurs ?
Ça dépend des pays. C'est vrai que dans quelques situations, dans quelques institutions de microfinance, ils ont identifié l'entrepreneuriat féminin et ils ont voulu vraiment accentuer sur les femmes. En l'occurrence, pour une institution de microfinance au Tadjikistan, qui est une institution qui ne sert que les femmes, dont les clients sont à 100% des femmes, et qui a décidé de travailler sur l'entrepreneuriat féminin en leur proposant un service de crédit pour lancer une affaire qui était couplé avec une formation en gestion de l'entreprise qui était spécifique aux femmes.
Parlant de formation de gestion de l'entreprise, justement, est-ce que votre étude offre des recommandations pour faciliter le travail des micro-entrepreneurs et leur accès aux micro-prêts ?
La recherche que le BIT a faite, au fait, confirme vraiment, et la recommandation, une des recommandations principales par rapport à ça, c'est qu'on a un plus grand effet si on relie les services financiers que les institutions font d'habitude avec des services non financiers. L'impact est décuplé, est beaucoup plus important quand les institutions de microfinance ne se limitent pas à leur rôle financier et bancaire, mais quand elles vont au-delà en intégrant le côté social et en pensant à leurs clients, au-delà du fait qu'ils soient des clients de services financiers. Donc vraiment relier, jumeler les services financiers avec les services non financiers, qui intègrent des formations, qui intègrent des campagnes de sensibilisation, qui peuvent intégrer des formations sur la gestion, mais d'autres types de formations, par exemple sur la santé et sécurité au travail, par exemple sur l'éducation financière, par exemple sur l'utilisation, une meilleure utilisation des services financiers, et ainsi de suite.
Et vous notez également l'importance d'aider les micro-entrepreneurs à intégrer le secteur formel, à remplir les démarches administratives.
En effet, oui. Au fait, il y a deux institutions de microfinance qui ont voulu travailler spécifiquement sur la formalisation de leurs clients. Une en Inde et une au Burkina Faso. Et ils ont eu des résultats assez impressionnants, en l'occurrence, par une formation. Donc, cette institution en Inde a décidé d'accompagner ses clients vers la formalisation en leur fournissant une campagne de sensibilisation aux bienfaits de la formalisation, en leur fournissant une formation à l'entrepreneuriat, à la gestion de l'entreprise, et en les aidant, comme vous avez mentionné, à remplir les formulaires et à les aider pour les formalités spécifiques. Et au fait, leur intervention a montré que l'augmentation de la sensibilisation des clients a augmenté de 93% et que l'enregistrement lui-même a progressé de 70%. Donc grâce à cette action intégrée que l'institution de microfinance a faite, ça a fait que 70% des clients qui ont eu cette formation intégrée ont enregistré leur entreprise. Les résultats de cette expérience, de cette action recherche et le message clé avec lequel on peut sortir, c'est que oui. En fait, les institutions de microfinance, si jamais elles arrivent à identifier un problème et qu'elles mettent vraiment l'accent sur l'amélioration de ce point particulier, eh ben, elles peuvent vraiment aider les clients au-delà de l'accès aux services financiers. Elles peuvent étendre leur action sur vraiment augmenter le niveau de subsistance, augmenter le niveau de vie de leurs clients.
Madame Yousra Hamed de l'OIT, elle était jointe à Genève. Ici Washington, La Voix de l'Amérique, Camille Grosdidier avec vous pour cette édition du magazine hebdomadaire de l'économie sur VOA Afrique. Évasion fiscale, scandale bancaire, marché public et multinational, réforme juridique en matière commerciale, telles sont certaines des principales préoccupations quant à l'amélioration de l'environnement des affaires en Afrique. Au Sénégal, depuis le vote récent de la loi sur les partenariats publics-privés, les concertations vont bon train pour peaufiner les textes relatifs à l'application du nouveau code voué à ne plus laisser la part belle aux grandes entreprises étrangères. Ces dernières écrasaient littéralement les entreprises nationales, a déclaré à La Voix de l'Amérique le directeur exécutif de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, Morta Lacane.
Il y a eu des avancées, de plus en plus, ce qu'il faut saluer déjà dans l'environnement des affaires économiques. Souvent, c'est cette meilleure compréhension qu'il y a entre l'administration et le secteur privé. Je pense qu'il y a une dizaine, une vingtaine d'années, le partenariat était très pauvre, à la limite si les deux entités se parlaient. Parce que de plus en plus, quand même, nous avons l'avantage de mieux faire comprendre nos préoccupations à nos amis de l'administration. Et l'administration a de plus en plus conscience aussi de nos préoccupations. Et nous-mêmes, nous avons une meilleure connaissance des limites de ce que peut faire l'État et de ce qu'il ne peut pas faire. Je pense que rien que avoir la possibilité d'être autour d'une table et de pouvoir se comprendre, déjà, c'est une avancée remarquable et qui participe à une amélioration de l'environnement des affaires. Pour ce qui est de l'environnement structurant, notamment les coûts des facteurs, je pense que ça, nous le partageons avec beaucoup d'autres pays. L'environnement est complètement miné par le coût de certains facteurs, notamment de l'énergie. Nous ne sommes pas les seuls, mais nous sommes dans des situations, quels que soient les efforts qui seront consentis, si le problème des facteurs techniques de production n'est pas réglé, nous aurons beaucoup de difficultés a émergé. Ensuite, maintenant, il y a un autre point qui est important, c'est celui de l'environnement juridique, la sécurité juridique et judiciaire. Là aussi, il y a des avancées, mais il reste beaucoup à faire pour y ait la rapidité dans l'exécution et beaucoup de visibilité et de prévisibilité dans les actes qui sont rendus par nos tribunaux, notamment en matière commerciale. Parce que ça aussi, nous avons eu des avancées, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Pour ce qui reste de l'environnement des affaires, je pense que nous avons encore quelques difficultés à nous faire comprendre, malheureusement, par nos autres partenaires sociaux, notamment les syndicats. Quels que soient les efforts qui seront consentis par ailleurs, là aussi, il y a beaucoup d'efforts à faire pour qu'on comprenne quand même que nos entreprises sont dans une compétition internationale et qu'on ne peut pas donner plus que ce que donnent nos concurrents au risque de nous retrouver complètement au bord de la route. Et malheureusement, nous avons une culture syndicale qui doit être améliorée pour qu'il y ait une meilleure réceptivité, en tout cas des contraintes et des exigences de la compétition internationale.
Depuis l'affaire Baratal en matière de compétences locales, hein, vous aviez parlé beaucoup de la fragilisation des entreprises sénégalaises. Est-ce que dans votre pays, des progrès ont été faits? Est-ce que le chef d'entreprise, maintenant, est un petit peu plus investi dans le développement du pays?
Ça reste un grand débat. Vous savez, nous avons des entreprises, notamment dans le secteur des BTP, qui, pendant quelques années, pendant une dizaine d'années, a beaucoup souffert d'une sorte de rejet. En tout cas, ils n'ont pas bénéficié de tout l'appui nécessaire, bien au contraire. Nous avons assisté à vraiment une sorte de rejet donc de l'entrepreneuriat national, notamment les petites et moyennes entreprises, notamment les moyennes entreprises en particulier, dans le cadre de la sous-traitance. Les gros marchés ont existé, mais n'ont pas fait le bonheur de ce tissu qui était déjà certes fragile, mais qui cherchait qu'à investir, à travailler dans le domaine des grands travaux. Donc c'est une vieille requête qui reste quand même pendante. Des efforts sont en train d'être faits parce que, comme vous le savez, le nouveau code des partenariats publics-privés qui a été voté, la loi sur les PPP a été votée, quand même contient des avancées. On demande à tous les entreprises qui veulent intervenir au Sénégal de nouer des partenariats, en tout cas d'avoir des partenaires avec des entreprises sénégalaises. Ça, c'est une avancée pour le moment. C'est une annonce qui est faite. Nous travaillons sur les textes et nous pensons simplement que ceci permettra de faire travailler effectivement nos entrepreneurs dans tous les grands travaux, parce que nous avons des pays qui sont en chantier. Les grandes entreprises étrangères ont toujours joué les grands rôles et donc ça a écrasé systématiquement tout ce qui était entreprises sénégalaises.
Est-ce que vous avez des pays en particulier en Afrique que vous enviez, comme vous souhaiteriez que cela soit fait au Sénégal, notamment dans le domaine privé?
Il y a quelques années, j'avais comme exemple le Burkina Faso, où il y avait quand même une volonté de construire un entrepreneuriat national. Et je pensais ensuite à la Côte d'Ivoire, mais bon, j'hésite beaucoup parce que c'est ce que j'ai entendu lors de la dernière rencontre entre la France et les entrepreneurs sénégalais africains s'est vérifié, où un leader du patronat disait qu'ils étaient mis à l'écart au profit d'entreprises étrangères. Là, je suis un peu surpris. Parce que pour moi, c'était les pays qui servaient de référence où l'entrepreneur national était beaucoup sollicité dans la construction, enfin dans les grands travaux. Maintenant, ça fait longtemps que je n'y ai pas été, mais disons que aujourd'hui, nous pensons de plus en plus à des pays de l'Afrique du Nord où nous pensons effectivement que le fait qu'il puisse essaimer sur le reste du continent a été favorisé par le fait que l'État, que ce soit au Maroc ou en Tunisie, a été derrière leur entrepreneur pour aider à la constitution donc des champions nationaux.
On écoutait le directeur exécutif de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, Monsieur Mortala Khan. Il était joint à Dakar par Nathalie Barge. Ici Washington, vous suivez le magazine hebdomadaire de l'économie sur VOA Afrique, un programme diffusé par la Voix de l'Amérique. Cybersécurité, eh bien le président Barack Obama s'est rendu vendredi dans la Silicon Valley en Californie. C'était pour appeler les géants de l'informatique à une coopération accrue entre les secteurs public et privé face aux crimes organisés en ligne, dont le coût économique devient de plus en plus astronomique. Le point avec Jacques Aristide.
Barack Obama a signé vendredi un décret incitant les grandes entreprises à davantage de coopération dans le partage des informations dont elles disposent sur les cyberattaques. C'était à l'occasion d'un forum organisé à l'université de Stanford par la Maison Blanche. Le gouvernement ne peut pas à lui seul assurer la sécurité de l'Internet, a-t-il fait valoir.
So much of our computer networks and critical infrastructure are in the private sector.
Une grande partie de nos réseaux informatiques et des infrastructures critiques sont dans le secteur privé, ce qui signifie que le gouvernement ne peut pas faire tout unilatéralement. Mais le fait est que le secteur privé ne peut pas le faire à lui seul non plus, d'autant que c'est le gouvernement qui dispose souvent des dernières données, a dit M. Obama. Le décret prévoit la mise en place de mécanismes destinés à recueillir et fournir des informations permettant de déjouer des attaques grâce à l'appui d'entreprises tout comme du gouvernement. Une ombre à ce tableau, nombre de sociétés américaines n'ont toujours pas digéré la façon dont l'Agence nationale du renseignement, la NSA, s'est servie de leur réseau informatique pour espionner. Et nombre de consommateurs sont loin d'être enthousiastes, redoutant un nouveau viol de leur intimité. Le président Obama a évoqué ses craintes.
Grappling with how government protects the American people from adverse events.
Il est difficile de régler les méthodes du gouvernement américain pour protéger le peuple américain contre des événements indésirables, tout en s'assurant que le gouvernement n'abuse pas de ses méthodes, a reconnu Barack Obama. Son espoir est que le décret présidentiel signé vendredi permettra l'adoption à terme de législations qui protégeront les sociétés tout en encourageant leur coopération dans la lutte contre la cybercriminalité.
Camille Grodidi avec vous pour le magazine de l'économie de VOA Afrique sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Dans un nouveau rapport sur les engrais, la FAO signale que l'utilisation d'engrais minéraux au niveau mondial devrait dépasser en volume 200 millions de tonnes en 2018, soit 25% de plus qu'en 2008, 10 ans auparavant. On écoute à ce sujet Caterina Batello, fonctionnaire principale de la division de la production végétale et de la protection des plantes de la FAO.
La prospective pour 2018, c'est d'avoir une consommation de plus de 200 millions de tonnes, qui fait 25% plus de ce qu'on a consommé en 2008. Mais il y a des grandes différences parmi les continents. L'Afrique va demander 4 millions de tonnes et l'Europe 15 millions. Mais les grandes consommations vont être dans les continents américains qui va demander plus de 23 000 millions de tonnes et en Asie qui va demander plus de 74 millions de tonnes. Donc une quantité remarquable. J'aimerais aussi ajouter qu'il y a des données intéressantes que ce rapport a mis en valeur cette année qui n'étaient pas très connues avant. On a fait une étude spéciale sur l'Afrique et on s'est rendu compte que l'Afrique subsaharienne, d'un côté, va consommer 4,7 de plus de fertilisants, mais en même temps, elle va être un des majeurs exportateurs de nitrogène et de phosphate.
Quelles sont les préoccupations à l'heure actuelle?
La vraie préoccupation, c'est une contradiction. D'un côté, il y a une pollution. Souvent, ces fertilisants causent, quand ils sont pas bien utilisés, de la pollution dans les sols et dans les eaux. Et en même temps, souvent, quand il n'y a pas assez de fertilisants, on se rend compte qu'il y a une dégradation des sols et des ressources naturelles. Donc, il y a un grand espace pour augmenter les efficacités dans l'utilisation des fertilisants.
Que recommande la FAO pour éviter toute incidence négative?
J'aimerais vous donner 3 exemples. La première, c'est qu'on peut changer des pratiques quotidiennes de production. On peut augmenter les rotations, on peut augmenter les légumineuses. La deuxième solution, on peut développer des technologies innovatives, c'est-à-dire surtout on pense au recyclage du phosphore qu'il y a en abondance, par exemple, dans les déchets. Et on peut penser à des fertilisants qui sont à slow release quand les conditions de l'environnement sont favorables. La troisième point, c'est qu'il faut faire un effort conjoint parmi la recherche, les politiques et les statistiques pour mieux comprendre quels sont les micro-organismes dans le sol, comment on peut mieux utiliser les services de l'écosystème et surtout quelle est la contribution de la fumure pour la fertilisation des sols et donc pour la production de nos aliments.
Madame Caterina Batello, haute responsable de la FAO, dont les propos étaient recueillis par Muriel Sarr de la même agence.
Voilà, ainsi s'achève cette édition du magazine hebdomadaire de l'économie de la Voix de l'Amérique. Au micro, Camille Gros-Didier, qui vous remercie de l'avoir suivi.